issue de la loi de 2008 sur les OGM, loi dans le cadre des engagements du Grenelle concernant les biotechnologies et qui reconnaît la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM en France, le Haut Conseil des biotechnologies a vu le jour il y a un an. Outil d'analyse croisé entre sciences dures et sciences humaines et acteurs sur le terrain, le Haut Conseil des biotechnologies donne au gouvernement lorsqu'il le saisit, les ONG, les associations sont aussi habilitées à le saisir, des avis en termes d'acceptabilité par la société et en particulier sur les questions de génie génétique. Qualifié d'agence du nouveau monde par le ministre de l'écologie, le Haut Conseil des biotechnologies français devrait également permettre d'infléchir la méthode d'expertise scientifique à l'échelon européen.
Au XIXe siècle, quand on a eu le train à vapeur.
Catherine Bréchignac, présidente du Haut Conseil des biotechnologies.
Il est écrit partout, dit partout, surtout ne dépassez pas 100 km/h parce que c'est mauvais pour votre métabolisme. Ben, on a tous vu maintenant que ce n'était pas mauvais pour le métabolisme. Donc on a accepté de prendre des DTGV.
Le Haut Conseil des biotechnologies a vu le jour l'an dernier dans un contexte un petit peu chahuté.
J'ai accepté cette nomination après que le ministre l'ait demandé deux fois.
En question, l'an dernier, sa véritable indépendance.
Nous sommes là pour répondre aux saisines du gouvernement, mais nous avons aussi une saisine d'un député indépendant qui a eu envie de nous poser des questions. Et puis, j'ai dit aussi aux associations que si elles voulaient nous poser des questions et nous saisir, il n'y avait aucun problème.
En question, surtout, la liberté de chacun.
Vous pouvez avoir des organismes génétiquement modifiés, des plantes OGM, certains ont envie de les manger et d'autres pas. Certains veulent manger du bio et d'autres pas. Donc il y a aussi un choix personnel, de vie personnelle, de choix personnel qu'il faut respecter.
Les biotechnologies vont vite. Qu'on le veuille ou non, elles sont aussi un élément clé du développement durable.
À un moment donné où la science et la technologie, la recherche et la technologie font avancer la connaissance, on a dans la société une société qui prend peur, qui tombe un peu dans l'obscurantisme. Et donc il y a ce vide à combler qui est d'expliquer, de poser des questions, d'enseigner, d'éduquer et de se poser les questions que se pose la société, à juste titre d'ailleurs.
Monsanto, c'est non. La pomme de terre en flora, c'est franchement pas terrible. La vigne, les porte-greffes OGM pour avoir du bon vin, ça c'est bien. Toute la question est donc, avis scientifique à l'appui, celle de l'acceptabilité.
Cette tâche, elle consiste à présider.
Christine Noiville, présidente du comité économique, éthique et social.
Un conseil qui est un comité qui est nouveau, je dirais, de deux points de vue. Le premier, c'est en ce qui concerne sa mission, parce qu'il a pour but de donner aux politiques un éclairage, qui est un éclairage autre que scientifique. L'idée, c'est pas du tout de remettre en cause l'analyse des scientifiques, c'est simplement de dire qu'il y a d'autres questions économiques, éthiques, sociales, quels sont les bienfaits sociétaux des biotechnologies en particulier, qui se posent, et que du coup, il faut analyser ces questions à la lumière de ce qui existe, comme données, comme point de vue des uns et des autres.
À charge au comité scientifique de ce Haut Conseil de séparer le bon grain de livret OGM.
On espère que notre travail a servi.
Jean-Christophe Pagès, président du comité scientifique.
Pour tous les OGM que l'on a évalués.
Puis le travail, c'est aussi d'organiser le débat dans ce comité qui est composé comme une espèce de point focal, de points de vue complètement opposés. Donc vous avez 27 personnes dans ce comité qui sont à la fois des personnalités qualifiées, mais aussi et surtout des parties prenantes très diverses. Il y a des agriculteurs, il y a des apiculteurs, des industriels, de la pharmacie, de l'alimentation, des associations de protection de l'environnement, des consommateurs, enfin vraiment énormément de gens qui ont des points de vue différents sur les biotechnologies, à qui on demande non seulement de débattre en direct, mais aussi de croiser leurs points de vue et leur expérience, parce que ces gens-là ont des compétences et une expérience de terrain qui souvent n'est pas prise en considération.
La science en adéquation avec ce qu'on attend d'elle.
Ne pas rester dans une vision purement technique des choses, mieux intégrer l'utilisation des produits que l'on évalue.
N'y aurait-il pas le risque de faire éventuellement travailler la science dans l'urgence?
Il faut faire attention à l'urgence, c'est-à-dire que vous avez plusieurs questions. Vous avez des questions qui sont complexes, dans lesquelles nous pouvons répondre parce que les connaissances existent, mais elles ne sont pas regroupées. Donc ça, c'est des réponses que l'on peut donner très rapidement. Et puis, il y a des questions où il faut faire de la recherche pour répondre aux questions. Ça, nécessairement, ça prendra du temps et on ne pourra pas aller plus vite que la réponse connue des résultats scientifiques.
Après un an d'existence, Le Haut Conseil doit aussi maintenant anticiper sur les questions qui vont lui être posées.
Voir quelles sont les recherches qui sont menées dans les laboratoires, qui ont les meilleures chances d'aboutir en une diffusion, et essayer de construire une analyse qui sera appropriée à ces nouvelles techniques. Ça, c'est un travail qui est extrêmement important. Il y a des bouleversements technologiques très très importants qui arrivent, et il faut évidemment être prêt à les recevoir.
Autre point, l'élaboration d'une jurisprudence bioéthique.
La jurisprudence, elle se fait pas en un jour. Elle doit être posée. Et sur un sujet aussi difficile que celui-là, elle peut pas être posée aussi rapidement que certains le souhaiteraient. Il reste que c'est évidemment l'objectif qu'on s'est fixé. Je souhaite qu'à partir de 2011, nous travaillions effectivement par catégorie de dossiers, par famille de dossiers. Les dossiers d'OGM résistant à la pyrale et à la sésamie, les dossiers d'OGM tolérants à tel ou tel herbicide, de telle sorte que nous n'ayons pas à réinventer la poudre, je dirais, à chaque type de dossier, même si évidemment les choses peuvent évoluer, et que nous puissions nous consacrer à des grandes questions transversales, génériques, comme la coexistence, comme la propriété industrielle, comme les questions éthiques en jeu, car au fond, ce sont elles qui rendent le débat difficile et qui sont les vraies pierres d'achoppement dans cette question des biotechnologies.
L'autre pierre d'achoppement, c'est l'Europe. Aujourd'hui, c'est elle qui dit oui ou non à un OGM. Elle l'a fait pour la pomme de terre en flora, à charge à chaque pays de faire valoir ensuite la clause de sauvegarde, ce qu'a fait la France. Le gouvernement a saisi le Haut Conseil des biotechnologies à ce sujet. La Commission européenne a ensuite 60 jours pour accepter ou non le fait qu'un pays veut faire valoir sa clause de sauvegarde. D'où la volonté politique française de faire évoluer, sur le modèle du Haut Conseil des biotechnologies, la prise de décision européenne afin qu'elle soit plus démocratique et sans aucun doute plus éthique.
Pour l'instant, je prends acte de ce que les 27 pays européens ont été unanimes à reconnaître la nécessité d'adjoindre à l'analyse scientifique une analyse économique, éthique et sociale. Ça, je crois que c'est déjà un point fondamental à souligner. Maintenant, comment est-ce que cette analyse va être mise en œuvre exactement par les différents pays, voire par la Commission elle-même? On attend un travail de la Commission et des propositions précises de la Commission à cet égard. Les autres États membres sont également en train de travailler à savoir comment ils peuvent mettre en œuvre une telle analyse chez eux. Donc clairement, on est dans une dynamique très favorable au dépassement de l'expertise scientifique. Et encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'enlever une légitimité quelconque à l'analyse scientifique. Elle reste nécessaire, mais simplement, effectivement, avoir deux regards croisés, deux regards différents éventuellement sur une même réalité. Tout le monde s'accorde maintenant à reconnaître que c'est indispensable.